Même chapitre 3, verset 12 à 22. La Bible dit: Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta au centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Dans d'autres versions, on dit extrêmement riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Et Abimélec dit à Isaac: « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac et dirent: « L'eau est à nous. » Et il appela le puits Essek parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et il appela Sitna. Ils partirent de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il appela Rehoboth, car il dit: l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Le deuxième texte sera dans le livre de Deutéronome chapitre 8, le verset 17 au verset 18. Deutéronome chapitre 8, le verset 17 au verset 18. Texte est derrière moi. Merci beaucoup, Christelle. La Bible dit ceci: fais bien attention, ou dans la version de reste, garde-toi. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur: c'est ma force et ma puissance, la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force de les acquérir. Amen. Les textes que nous lisons sera dans le livre de Psaume 87, le verset 6 au verset 9, un texte que nous avons lu dans l'enseignement du vendredi. Psaume 87, le verset 6 au verset 9, à moins que je ne... Voilà. Et parce que je me suis trompé du texte. Pardon? 84. Merci beaucoup, Maman Litanga. Merci, que Dieu te bénisse. Voilà. 84, et j'ai fait 86. Voilà. Psaume 84, le verset 6 au verset 9. La Bible dit ceci: heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ou l'autre version dit: heureux ceux qui se confient en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, ou dans d'autres versions, la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, que Dieu de l'univers, qui te demeure, sont agréables. Éternel, écoute la prière de mon cœur, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Amen. J'aimerais ce matin commencer par une petite histoire qui m'est arrivée il y a de cela quelque temps lorsque nous avons acheté la maison. Comme la plupart d'entre vous, disons que le jardinage n'est pas vraiment mon passe-temps favori, mais je me suis retrouvé à acquérir un terrain qui avait une maison et sur ce terrain-là, il y avait des plantes. Et moi, les seules plantes que je connais, c'est les roses parce que je les offre à mon épouse. Et je connais aussi les pissenlits parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit et j'ai appris comment les pissenlits peuvent être désagréables. Et ayant acheté la maison, je me suis mis à me renseigner auprès des anciens propriétaires parce que je voulais savoir c'est quoi ces plantes qui étaient devant moi et comment les entretenir. Voulant savoir, l'ancien propriétaire m'a dit: écoute, Les plantes que tu as devant la maison ne demandent pas beaucoup d'entretien parce que ce sont des vivaces. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre que si vous n'êtes pas habitué au monde du jardinage, ça va vous sembler un peu étrange. Ce sont des vivaces. Quelqu'un dit des vivaces. Et les vivaces, ce sont ces plantes-là qui ont la capacité de survivre à toutes les saisons. Elles peuvent sembler être mortes, mais en dedans, dans la terre, il y a la vie. Tel que le psaume 1 dit, « L'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin du péché, en tout cas, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et il est comme planté près d'un courant d'eau et qui porte son fruit. » Donc, en fait, ce que le psaume 1 nous présente, c'est une vivace. Et Dieu veut que nous puissions être des chrétiens vivaces, des chrétiens qui peuvent survivre à toutes les saisons de la vie. Parce que la réalité, c'est que nous aurons des bonnes saisons et des mauvaises saisons. Nous aurons des saisons difficiles et des saisons plus faciles. Mais Dieu veut faire de nous des chrétiens qui sont des vivaces. C'est une plante qui survit aux différentes formes d'intempéries auxquelles il est exercé. Mais en dehors des vivaces, il y a deux autres types de plantes qu'on peut parler dans le jardinage. Après ça, je vais fermer mon volet jardinage, parce que je vois qu'il y a des spécialistes devant moi, je vois Joël qui me regarde, donc je ne ferai pas d'erreur. Il y a aussi les plantes qu'on appelle les plantes annuelles. Ce sont des plantes dont le cycle de vie est la germination, de la germination à la production ne dure qu'une année. Donc nous pouvons être aussi ce type de gens-là, qui connaissent le succès simplement pendant une année, qui connaissent la réussite pendant une saison. Mais nous pouvons être une vivace comme Daniel, que les saisons passent, les règnes de roi passent, et il est stable. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Le troisième type de plantes que l'on peut retrouver dans un jardin, ce sont les plantes qu'on appelle les plantes biannuelles. Donc c'est une plante qui accomplit son cycle de vie en deux années et meurt en séchant grâce à sa sève blanche. Donc, il y a le troisième type. Le premier type, c'est ceux qui survivent à toutes les saisons de la vie. Et je crois qu'en Christ, nous sommes capables de survivre à toutes les saisons de la vie, comme nous allons le voir ce matin. Le troisième type, c'est ceux qui vont survivre simplement pour une courte période, un an. D'autres qui vont survivre pour une période de deux ans. Mais Dieu veut, ce matin, faire de nous des gens qui vont survivre à toutes les saisons de la vie. Et lorsque je parle des saisons de la vie, je ne parle pas des saisons spirituelles. Ce matin, nous voulons être pratico-pratiques, parler des vraies choses. Vous êtes au courant que le monde actuel ne va pas bien. Vous êtes au courant que l'économie, on a dit par rapport au Canada, que nous sommes entrés dans une récession. Amen. Et puisque nous sommes rentrés dans une récession, vous avez vu dans les nouvelles qu'on nous parle que le dollar canadien a perdu 25% de sa valeur. Ce qui veut dire que si vous êtes dans import-export, ça devient difficile. Au point où la firme Dollarama, qui est très familier à beaucoup d'entre nous, gloire à Dieu, a songé à changer son nom pour devenir un magasin à 4$ que certains commencent à appeler Quattrorama. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est pour vous montrer comment cette crise économique qui frappe le monde, frappe les entreprises, nous affecte aussi nous-mêmes les enfants de Dieu. Nous affecte, et si nous n'apprenons pas à être des vivaces, nous allons mourir dans la crise. Quelqu'un est avec moi ce matin. Les données de Statistique Canada nous indiquent que, en moyenne, depuis quelques années, l'endettement des ménages canadiens est d'environ 165%. Ce qui veut dire qu'un couple dépasse 65% plus de ses revenus. Si mes statisticiens sont là, mes statistiques sont correctes, oui, d'accord. Un couple dépense 165%, donc 65% plus pour pouvoir juste nouer les deux bouts du mois. Ce matin, je suis venu pour parler aux monsieur et madame qui travaillent, aux monsieur et madame qui n'ont pas la certitude si demain vous allez avoir encore un emploi. Monsieur et madame qui n'ont pas la certitude de savoir est-ce que quand je rentre, quand mon patron m'appelle, est-ce que on m'annonce ma fin ou on m'annonce mon début. Je suis venu parler à ces hommes et ces femmes qui se lèvent chaque matin, qui doivent aller au travail, qui doivent payer un prix afin de pouvoir avancer, afin de pouvoir payer leurs factures. Je suis venu parler à ces hommes et ces femmes qui luttent pour nouer les deux bouts du mois. Et l'économie est rendue tellement difficile que Même nouer les deux bouts du moins, c'est miraculeux. Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux ce matin qu'on soit réel, okay? Je veux qu'on se parle. Est-ce que vous êtes avec moi? Nouer les deux bouts du moins. Je parle avec différentes personnes qui me disent, écoute, je suis obligé de prendre un deuxième boulot de côté afin de pouvoir nouer les deux bouts du moins. Tellement que cette crise-là est en train de nous affecter. Et cette situation de stress financier, de stress, et je me demande même depuis le début du culte, combien de voyages chacun d'entre nous a fait vers son compte de banque en disant « Oh, j'ai telle facture à payer, j'ai pas encore d'argent, comment je vais faire ?» Et là, on est rendu à un système de « J'emprunte ici, je comble ici, là j'ai un tout, alors j'attends jeudi, je suis riche jeudi, mais le vendredi je suis… » Achevez la phrase, le vendredi je suis pauvre. Et plusieurs d'entre nous ici vivent avec l'angoisse. Les hommes se sentent diminués parce que peut-être autrefois, quand ça allait bien, tu pouvais payer la dernière robe pour un mariage à ton épouse. Et aujourd'hui, quand on te dit mariage, ton épouse sourit, toi tu es stressé. Parce que tu dis comment je vais faire? Et tu vois en compte que ta voiture a commencé à parler en langue. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ta voiture a commencé à parler en langue, à faire de bruits bizarres. Et toi, tu as l'interprétation, mais tu dis à ton épouse, ça ne fait rien. Mais au-dedans de toi, tu te sens diminué parce que tu te demandes comment est-ce que je vais nouer les deux bouts du monde. Y a-t-il des gens stressés ce matin juste par la foi? Dites amen. On veut parler des vraies choses ce matin. Et pourtant, lorsqu'on regarde ça, on rejoint un peu ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 5. Il dit, en effet, à notre arrivée en Macédoine, nous n'avons pas eu un instant de repos, nous avons connu toutes sortes de détresses. Conflit au dehors, crainte au dedans. Dans la version Louis II, ça dit lutte au dedans, crainte au dehors. Et c'est la réalité. Nous ne pouvons pas dire que l'économie actuelle ne nous affecte pas. Ça serait vraiment vivre peut-être dans une situation très, très parallèle. Et ce que j'aime bien, c'est que sur les médias sociaux, la crise économique ne frappe pas. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde a la dernière voiture. Mais en réalité, chacun d'entre nous ici est assis en train de se demander comment je vais nouer les deux bouts du mois. Et certains sont ici, vous avez même acheté une maison et tu te demandes, mais est-ce que j'ai vraiment fait une bonne chose d'acheter la maison? Pourtant, lorsqu'on regarde la vie d'Isaac, Isaac nous laisse quand même certains exemples à suivre, tels que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 9. Il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Suivant cet écho-là, l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 11. L'apôtre Paul dit, ces choses leur sont arrivées aux gens qui nous ont précédés. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus dans ce siècle. Quelqu'un dit amen. Donc, ce que nous pouvons comprendre en lisant la parole de Dieu, c'est que les choses que les gens qui nous ont précédés, tels que les Isaac, les Abraham, ont vécues, les victoires qu'ils ont eues, peuvent nous servir aujourd'hui, alors que le monde est entré dans une crise économique, alors que les injustices sociales sont nombreuses, où je regardais les nouvelles, et cette crise avec Volkswagen, et puis la prime qu'on a décidé de payer au patron. Je me suis dit, j'aimerais juste avoir 0,1% de ce montant, ça réglerait beaucoup de mes situations. La réalité aujourd'hui, c'est que la plupart des gens sont assis ici, vos cartes de crédit, nos cartes de crédit sont pleines. La réalité, c'est que beaucoup de gens sont assis ici, ils ont des prêts automobiles à des taux exorbitants et vous êtes stressés parce que quand tu as pris le prêt, tu te disais ça, je prends le prêt, je sais que dans un an, j'aurai l'argent, j'aurai fini de payer le prêt. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu commences à patiner. Et on est assis, on se dit, mais comment nous allons nous en sortir? J'aimerais vous dire que malgré ce que vous traversez, Dieu a des solutions pour nous. Quelqu'un dit amen. Et ce que j'aimerais vous dire aussi, mes bien-aimés, c'est que la crise économique que le monde vit, il y a eu des crises économiques dans le passé, il y a des crises économiques aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau. Le texte que nous lisons nous dit que au temps d'Isaac, il y a eu une famine, comme dans le temps d'Abraham. Donc, Abraham sert d'indicateur à Isaac de certaines situations qui peuvent arriver dans la vie réelle. Amen.
Alors, lorsque nous regardons ça, ce qui nous pousse à voir que dans le temps d'Isaac, lorsqu'on dit qu'il y a eu une famine, en réalité, Isaac vivait dans un temps où l'économie dépendait de deux choses. L'économie dépendait de l'agriculture et l'économie dépendait de l'élevage. Donc, il fallait que la pluie tombe pour que les bêtes mangent et pour que les hommes cultivent. Mais lorsqu'il y a une sécheresse, automatiquement, il y a une crise économique qui s'installe. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Et la Bible dit que ce qui est arrivé au temps d'Abraham est arrivé au temps d'Isaac. Et ce qui est arrivé au temps d'Isaac, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Amen. Donc le contexte de notre texte nous pousse à voir la réalité des hommes qui nous ont précédés, ce qu'ils ont vécu. Et pourtant, la parole de Dieu nous donne un espoir, nous donne des indicateurs qui peuvent nous aider à nous qui sommes stressés aujourd'hui. Vous savez, quand tu es rendu, que tu vas à la boîte postale une fois par semaine. Surtout que maintenant, c'est loin de la maison, donc tu as une excuse. Donc, tu vas une fois par semaine. Si l'enveloppe est blanche, tu prends... si elle est blanche, sans expéditeur, tu hésites. Si elle est brune, indiquée revenu Canada ou revenu Québec, tu recules en arrière. Ce sont les symptômes du stress. Mais ce que j'aimerais vous dire, que la Bible nous enseigne que Isaac a survécu au milieu de la crise économique de son époque. Et j'aimerais vous dire que si nous appliquons les principes de la parole de Dieu, il est possible pour nous de survivre dans n'importe quelle crise qui va frapper le monde. Amen. Parce que notre salut, notre délivrance ne dépend pas du système de ce monde, mais dépend de Dieu. Amen. La Bible nous donne des exemples de la veuve de Sarepta, qui est une femme sans moyens, une femme toute petite, mais qui a survécu à une famine, qui a survécu à une crise, alors que tout le monde mourait. Dieu lui a mis sous la loi de l'exception. Je sais que tes comptes sont serrés, mais ma prière ce matin, c'est que Dieu fasse une exception dans tes finances. Ma prière ce matin, c'est que Dieu te donne un peu d'air à respirer. Tu sais, quand tu es rendu à dormir la nuit, puis ton cœur bat trop vite, ce n'est pas que tu as une maladie du cœur, tu es stressé, tu es angoissé parce que tu ne sais pas de quoi le lendemain sera fait. La Bible nous dit que pendant que Israël était en Égypte, il y avait que Dieu est en train de frapper les Égyptiens de 10 plaies. La Bible dit que dans le camp d'Israël, il n'y a rien qui se passait. Amen. Et dans le livre de Joël, je pense, Dieu dit que je mettrai une distinction entre ceux qui sont de moi et ceux qui ne sont pas de moi. Quelqu'un dit amen. La Bible nous parle aussi dans le livre de Deux Rois, de la femme de ce prophète, qui son mari est mort, son mari a laissé dans les dettes. C'était la crise économique dans la maison. Elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas comment s'en sortir. Mais la Bible nous dit qu'elle est rentrée en connexion avec un homme de Dieu. Et la Bible dit que dans la crise, une entreprise est née. Je proclame sur ta vie que dans la crise dans laquelle tu traverses dans tes finances, une entreprise peut naître. Je proclame que dans la crise que tu traverses, Dieu peut sortir quelque chose de grand, quelque chose qui va étonner le monde. Quelqu'un dit amen. La Bible dit qu'un jour, Jésus se retrouve avec les disciples et il a fait le ministère. Et puis, vraiment, c'était merveilleux. Mais la Bible dit qu'à la fin, les gens étaient en train de les gens avaient faim. Les gens étaient là depuis 3 jours. Ils n'avaient rien à manger. Au point où même Jésus a dit, on ne peut pas renvoyer ces gens, sinon ces gens vont mourir en chemin. Et un jeune homme est venu avec 5 pains et 2 poissons. Il les a présentés au Seigneur. La Bible dit que Jésus a multiplié pour pouvoir nourrir 5000 personnes. Quelqu'un dit amen. Je déclare sur ta vie que le peu que tu as, Dieu va le multiplier afin que tu puisses traverser la crise actuelle. Je déclare que lorsque tu vas rentrer dans des magasins, tu vas trouver des spéciaux. Je déclare que Dieu... Il n'y a pas quelqu'un qui dit amen. Vous n'en avez pas besoin, alors je vais dire pour moi. Je déclare que lorsque j'arrive, oui, parce que vous n'en avez pas besoin, moi j'en ai besoin. Alors, je déclare que lorsque tu... Vous savez, amen veut dire qu'il en soit ainsi dans ma vie. Amen veut dire qu'il en soit comme Dieu est en train de le déclarer. Frère, je déclare que le peu que tu as va s'extensionner. Je déclare que la farine dans tes mains ne diminuera pas. Je déclare sur ta vie une sagesse divine pour savoir gérer dans les temps difficiles. Quelqu'un dit amen. Et la Bible nous dit que Isaac, au milieu de la crise économique de son époque, Isaac a survécu. Dis à quelqu'un, tu peux survivre. Dis à quelqu'un, tu peux survivre. Dis à quelqu'un, tu peux survivre. Dis à quelqu'un, Dieu a dit que tu peux survivre. Dieu a dit que tu peux survivre. Comment survivre
tel que la Bible dit que quand le monde est bouleversé, quand l'économie va mal, quand le monde est en train de s'écrouler, on ne sait pas le prochain gouvernement, est-ce qu'ils nous disent la vérité ou ils nous mentent. Qu'on ne sait pas si réellement l'augmentation, la promotion que tu as eue, c'est une promotion pour la porte ou une promotion réellement pour rester dans l'entreprise. Dieu a des solutions pour nous. J'aimerais citer trois éléments rapidement ce matin qui vont pouvoir nous aider. La première des choses, la Bible nous dit que lorsqu'il y eut une famine, comme au temps d'Abraham, la Bible nous dit que Dieu a dit à Isaac, ne descend pas en Égypte. J'aimerais, excusez-moi, m'arrêter avec vous un moment ce matin pour vous poser la question. Vraiment. La crise économique frappe. La logique, qu'est-ce qu'elle dit? Descend en Égypte. Mais parfois, Dieu veut que tu restes dans la crise. Parfois, Dieu veut que tu restes dans le problème parce que c'est dans le problème qu'il va déclencher des solutions non humaines, des solutions miraculeuses. Parfois, Dieu veut te garder dans le problème parce qu'il a des miracles et des prodiges qu'il va faire dans le problème. La solution n'est pas toujours l'évasion, mais parfois la solution, c'est de demeurer. Parfois, la solution, c'est de rester et de compter sur la grâce surnaturelle de Dieu qui déclenche des prodiges et des miracles. Quelqu'un dit amen. Donc, la première des choses, lorsque la crise économique frappe, et je pense que c'est ce qui s'est passé, Dieu n'a pas dit à Isaac simplement dans le vide, mais la première des choses, dans la crise qui frappe actuelle, la première des choses à faire, c'est de consulter Dieu avant de faire un mouvement.
Amen.
Consulter Dieu, consulter Dieu, consulter Dieu. Pourquoi consulter Dieu? Parce que consulter Dieu me permet de ne pas vivre la crise sur base de mes émotions, mais de la vérité de la parole de Dieu.
Amen.
Je répète, consulter Dieu me permet de ne pas vivre la crise sur base de mes émotions, sur base de mes nouvelles. Frère, si vous suivez tout ce qu'on dit dans les médias, tu vas quitter le Canada. Si tu suis tout ce qu'on dit dans les médias, tu vas même envier l'Afrique que tu as quittée, l'Haïti que tu as quittée, l'Italie que tu as quittée en disant que là-bas c'est mieux. Ce n'est mieux nulle part. C'est mieux avec Jésus. C'est mieux en Jésus. C'est mieux avec Jésus. C'est là que c'est mieux. Et le diable, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut te mettre dans une situation où tu vas commencer à paniquer et à vivre la crise par tes émotions. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et des supplications et avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence fera quoi ? Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je consulte Dieu. Parce que quand je consulte Dieu, le but de Dieu n'est pas d'abord de me délivrer, mais que d'abord mes pensées se calment.
Amen.
Beaucoup de gens souffrent de certaines maladies de cœur parce que leur tête, c'est comme s'il y a des abeilles dedans, leur tête est tout en train de tourner. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Et tu n'as pas la paix. Et quand tu consultes Dieu, la première des choses qui arrivent, d'abord tu as la paix.
Amen.
Tu as la paix. S'il y a une chose que, avec le temps, mon épouse a commencé à comprendre, même s'il n'y a pas d'argent, généralement, je suis en paix. Qu'est-ce que je peux faire? De toute façon, je ne peux rien changer.
Amen.
Je ne peux rien changer. Tout ce que je peux faire, c'est dire, Seigneur, tu as vu. Est-ce que je peux faire une déclaration ce matin? Si jamais ce matin, tu es sans emploi, je veux que tu arrêtes de dire, je n'ai pas d'emploi.
Amen.
Je veux que tu arrêtes de dire ça. Dis que je travaille pour Dieu. Et Dieu a changé la personne qui doit signer mon chèque.
Amen.
Je veux que tu ne dises plus jamais, je suis sans emploi. Dans le système de Dieu, il y a toujours de l'emploi. Il n'y a que la personne qui signe le chèque qui change.
Amen.
Je ne veux plus que tu dises je suis au chômage. Si tu es au chômage selon les hommes, Dieu a désigné le gouvernement du Canada pour te faire un chèque à toutes les deux semaines.
Amen.
Ne dis pas que je suis sans emploi, tu es employé par le roi des rois qui veille sur toi. La Bible dit que celui qui veille sur toi, il ne dort ni ne sommeille. Quand tu dis je suis sans emploi, c'est que même Dieu, tu le bloques de te bénir. Tu bloques Dieu de faire des choses pour toi. Dis que je suis employé par le roi des rois. Dieu a changé la personne qui signe mon chèque. Dieu a jugé que la personne qui signait mon chèque, Dieu a chassé. Je vais le dire en anglais. He fired the guy. He fired the guy who signed my check. Il a chassé la personne qui signait mon chèque. Dieu a décidé de signer le chèque par une autre méthode. Je ne veux plus jamais entendre quelqu'un me dire « Je suis sans emploi. » Dis « Je suis employé par le roi des rois. » Dieu signera un chèque pour moi. Même s'il reste 30 secondes pour qu'on me reprenne la maison, Dieu est capable d'opérer un miracle surnaturel. Dans la crise économique, les enfants de Dieu doivent croire au surnaturel de Dieu. Quelqu'un dit « Amen. » En Pierre chapitre 5, le verset 7 dit, encore dans la version de se consulter, « Déchargez-vous sur lui de... » Déchargez-vous sur lui. Le problème, c'est que quand la crise frappe, vous commencez à stresser. Madame accuse monsieur, monsieur accuse madame, le foyer n'a plus de paix. Là maintenant, tous les défauts qu'il y avait dans ton épouse, tu commences à les voir. Un bouton qui était là que tu n'avais pas vu, soudainement tu vois le bouton. Frère, nous avons besoin dans la crise économique d'apprendre à nous décharger, pas de certains soucis, de tout. Nos soucis. Est-ce que mon mariage tiendra? Je me décharge sur Christ. Est-ce que j'aurai l'argent pour payer ma voiture? Je me décharge sur Christ. Parce que je sais que quand les moyens naturels ne suffisent pas, Dieu est capable d'employer des moyens surnaturels. La Bible dit que notre Dieu est capable de faire des prodiges et des miracles. Si la terre dit non, le ciel peut dire oui à ta condition. Quelqu'un dit amen. La deuxième des choses pourquoi nous devons consulter Dieu. Nous consultons Dieu parce que lorsque je consulte Dieu, mes forces et ma foi se renouvellent. Il y a beaucoup de gens qui ont des fatigues, ce ne sont pas des fatigues physiques, c'est des fatigues liées à l'anxiété. Est-ce que je peux parler librement? Même dans le couple, à un moment donné, tu peux voir que ton conjoint ne te dit plus rien. Non, ce n'est pas le conjoint, il n'a pas changé, son physique est resté le même. C'est simplement l'anxiété. Tu es tellement stressé que tu penses que tu as besoin de Viagra. Tu n'as pas besoin de Viagra. Tu as besoin d'arrêter de te faire des soucis. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 3, le verset 5. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Donc, premièrement, on a vu avant que de nous décharger sur lui de tous nos soucis. Amen. Amen. Car lui prend soin de nous. Dieu ne prend pas soin de nous en fonction de nos efforts que nous faisons. La Bible dit qu'il en donne à son bien-aimé pendant son sommeil. Frère, je me suis retrouvé un jour sans sous, sans rien. Donc, tu as acheté la maison est dans un stade de football. Tu parles, l'écho part. Oh, l'écho revient. Et là, ton épouse te dit, comment on fait? Et toi, tu dis, j'ai la foi. Au-dedans, c'est lutte au-dehors, crainte au-dedans. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Mais frère, à un moment donné, je reçois une lettre. Quelque part, vous me dites, mais monsieur, vous avez 7 000 $ qui dort ici. Je dis, oh, alléluia. Je dis, chérie, là tu es confiant, hein. Je dis, chérie, tu vas aller au restaurant. Je dis, chérie, tu voulais quoi? Un salon, fais la liste de ce que tu as besoin. Amen. Et là, quand tu dis ça, soudainement, tes défauts disparaissent. Hein. Tu deviens l'homme le plus beau, le plus doux, le plus tendre. Alléluia. Hein? Soudainement, tu es beau. Quand ton portefeuille est beau, tu es beau. Hein? Soudainement, on va dire, ah chérie, tu as vraiment l'air de Michael Jordan. Vraiment, tu marches comme Tiger Woods. Hein? Tu as l'éloquence de Barack Obama. Non, c'est le portefeuille. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur. Proverbe chapitre 3, le verset 5 dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur tes calculs, ne t'appuie pas sur ton raisonnement. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, détourne-toi du mal, ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Psaume 26, le verset 1 dit, « Je me confie en l'Éternel et je ne chancelle pas. » Frère, quand tu te confies en Dieu, la première chose qui se passe, c'est que la Bible dit que sa renommée s'accomplit par... c'est accru par l'accomplissement de ses promesses. Donc, Dieu est obligé de défendre. Il est obligé de défendre son nom. Parfois, tu as l'impression que Dieu t'a laissé tomber, mais Dieu ne t'a pas laissé tomber. Parfois, ton congédiement est une promotion. Je vais le répéter. Parfois, ton congédiement est une promotion. Joseph pensait que chasser de la maison de Potiphar, c'était la fin pour lui. Or, c'était la promotion. Frère, on t'a chassé de quelque part, mais par la voix prophétique ce matin, je déclare que c'est une promotion. Je déclare que Dieu changera le mal qui t'arrive en bien. Je déclare que des opportunités d'affaires vont venir vers toi. Je déclare une expansion sur ta vie dans le nom précieux de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. Ésaïe chapitre 40, le verset 31, la Bible dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils ont l'ensemble, renouvellent. » Quand tu te confies en Dieu, il y a un fardeau qui te quitte. Ça ne veut pas dire que le problème est parti, mais tu regardes le problème à partir de la perspective de Dieu. Au lieu de dire, comme Israël, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, maintenant tu regardes devant, dans la perspective de Dieu d'en haut. Ouh, quel petit problème. Parce que ce n'est plus ton problème, c'est le problème de Dieu. Frère, j'ai vu des miracles financiers, Dieu déclencher des choses autour de nous. Mais quand Dieu le faisait, nous nous disions, il n'y a pas d'argent. Dieu fait comme ça, il n'y a pas d'argent. Non, à un moment donné, j'ai dit à mon épouse, reconnais que ce qui est entré est un salaire. Reconnais le peu que tu as dit, merci Seigneur. Il faut que tu encourages le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, quelle grâce! Saint-Esprit te dit, il mérite que je fasse plus. Mais quand Dieu fait des petites choses dans tes crises là, peut-être tu méprises ça. Dieu dit non, il ne vaut pas la peine. Amen. Comme toute maman, toute femme, si tu viens, tu t'arranges, tu te fais belle pour ton mari, puis il passe, il ne t'a pas vu, même la prochaine fois. Mais si tu n'es même pas jolie, tu t'arranges, tu dis, oh chérie, tu es belle, même la prochaine, même ta démarche change. C'est comme si soudainement tes cellules se multiplient, les cellules qui étaient crochues là, elles s'arrangent. Parce que quand je dis chérie, tu es belle, j'appelle en toi à l'existence quelque chose qui n'existait pas, comme si c'est... Est-ce que vous me saisissez? Et c'est pour cela que la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Les forces ne se renouvellent pas pendant le sommeil. Il y a des multimillionnaires qui dorment fatigués, qui se réveillent fatigués. Ils dorment angoissés, ils se réveillent fatigués. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la paix. Mais quand je me confie à Dieu, au milieu d'une crise, la Bible dit que mes force se renouvelle. Le deuxième effet, la Bible dit qu'ils prennent leur vol comme l'aigle. Ça veut dire qu'au milieu de la crise économique, ils n'avancent pas avec leurs efforts. Parce que l'aigle ne bat pas l'aile. Ton problème dans ta crise, c'est que tu bats les ailes de ton 9 à 5. Tu ne dépends pas d'une force surnaturelle comme l'aigle qui attend que le vent chaud commence à bouger ses ailes. Au milieu de la crise, du vent qui arrive, l'aigle étend simplement ses ailes et il est porté par le courant d'air. Il plane au-dessus de la situation. Frère, tu as besoin de te confier dans la puissance surnaturelle de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La troisième des choses, pourquoi consulter Dieu? Consulter Dieu me permet de déclarer ce que Dieu dit dans ma situation, dans sa parole. Qu'est-ce que la parole dit sur ce que je traverse? Frère, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit ceci. Il me dit, moi, quand quelque chose de bon m'arrive, je me demande quand est-ce que quelque chose de mal va arriver. Voilà. Je lui dis, c'est pas difficile. Combien de gens, tu es une sœur, tu pries, je veux avoir un mari, je veux avoir un mari. Tu as passé vraiment la saison économique là, mauvaise là. Quand il arrive, tu dis, quel défaut il a qu'il ne m'a pas dit. Donc tu ne crois pas que Dieu peut t'envoyer quelqu'un dans tes 40 ans, 50 ans, un Boaz. Quelqu'un qui peut corriger ta destinée. Tu ne crois pas que Dieu peut le faire. C'est vrai que tu as eu des grossesses et puis tu as perdu des enfants. Et là, tu es enceinte présentement. Tu dis, celui-là aussi, je vais le perdre. Tu ne crois pas que Dieu peut faire une exception cette fois-ci. Je déclare une exception sur ta vie. Je déclare une exception sur ton mariage. Je déclare une exception sur tes finances ce matin. Romains chapitre 10, le verset 17 dit, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient... » Ce qui veut dire, dans une crise, j'ai besoin de déclarer à haute voix ce que la parole dit. Pourquoi? Quand je les déclare, ça sort et je l'entends. Quand je l'entends, ça crée la foi en moi. Ça crée quelque chose en moi. J'ai besoin, dans une crise, de mettre la parole de Dieu qui joue dans ma maison. 24 heures sur 24. Parfois, tu prends même ton téléphone et puis tu lis des textes clés et puis tu mets que ça joue parce que ça va bâtir ta foi. Proverbes chapitre 18, le verset 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir. La mort et la vie ne sont même pas au pouvoir du diable. C'est ta langue qui détermine dans la crise que tu es, si tu vas survivre ou si tu vas mourir. C'est ta langue. Et Jésus dit ceci dans Jean chapitre 6, le verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce qui veut dire que quand la parole sort de ma bouche, ce n'est pas seulement des mots, mais c'est une puissance de crier. Parce que quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a un soufflé en l'emploi de son esprit. Donc ce qui veut dire que la capacité de créer, nous l'avons. Dieu ne crée pas parce qu'il prend des gants et puis il prend un marteau, il commence à taper. Dieu crée par sa parole. De la même façon, tu crées par ta parole. Quand tu commences dans ton couple à dire divorce, 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 tu le crées le divorce. Quand tu dis moi je suis pauvre, tu seras pauvre. Dis je n'ai pas encore d'argent, l'argent arrive. Tu es en train d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas la pensée positive, c'est dire ce que la Bible dit dans ma situation. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon la richesse de sa grâce. C'est ça que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc, quand je commence à faire cette déclaration, mon focus n'est plus mon problème, mais mon focus est celui qui est élevé au-dessus des montagnes. C'est lui qui est élevé, qui contrôle l'univers visible, l'univers invisible. Mon focus est celui qui tient toutes choses entre ses mains. Je regarde les choses selon la perspective de Dieu. Notre problème, dans la crise, nous commençons à nous auto-saboter, à nous auto-détruire nous-mêmes. Frère, un jour Dieu m'a posé la question.
Tu peux dire tu as la foi hein, jusqu'à ce que Dieu te pose la question. Comme les professeurs lui disent, crois-tu que tu peux vivre du ministère à temps plein? Je suis dans la voiture en train de conduire. Dialogue avec le Saint-Esprit. Frère, là tu commences à regarder ton hypothèse passée, tu regardes la maison, tu regardes les besoins. Crois-tu? Crois-tu que Dieu peut te faire survivre même s'il n'y a aucun chèque qui rentre?
Crois-tu? Même si tu n'as pas d'emploi, crois que Dieu miraculeusement peut te faire survivre. Crois-tu que Dieu peut le faire? Crois-tu que Dieu peut opérer des miracles autour de toi? Crois-tu que Dieu peut faire disparaître le cancer qu'il y a dans ton corps dont tu n'as même pas parlé à ton épouse? Crois-tu que Dieu peut le faire? Et c'est quand Pierre, Dieu ne fait pas des miracles au hasard, c'est quand Pierre sort de la barque encore en train de tanguer, que le miracle de marcher sur l'eau se fait. Parce que ça ne sert à rien de sortir d'une barque qui est stable. Est-ce que vous me saisissez? Imagine, tu sors d'une barque qui est stable, tu es ridicule. Mais quand tu sors par la foi, tu dis, Seigneur, je te fais confiance, voici ce que ta parole dit. Et notre problème, c'est parce que nous n'avons pas la révélation du royaume de Dieu. Quand tu comprends, tu as la révélation du royaume de Dieu. Je n'ai pas dit une connaissance intellectuelle. Tu peux connaître beaucoup de choses. Exemple, mon frère Jean-Claude, je sais qu'il porte une cravate, une très belle cravate bleue, rouge et grise. Mais son épouse a la révélation de qui il est. Elle peut savoir exactement, là il est fâché, il a autant dans le compte de banque. Donc quand tu as la révélation du royaume de Dieu, tu as accès à de l'information privilégiée par rapport à ta situation. Ton problème, c'est que tu veux opérer dans le naturel, dans le royaume de Dieu. Et c'est pour cela que tu as l'impression que les choses ne marchent pas. Mais frère, le jour où Dieu m'a fait voir le royaume, j'ai commencé à comprendre ma position en Christ. Voilà pourquoi, même, j'arrive dans une situation où je suis fâché, j'essaie de me retenir, parce que je sais que si je parle, ça va arriver. Quelqu'un dit amen. Et ce que le diable fait dans ta crise, c'est qu'il veut te conduire dans un point où tu es tellement mal pris que tu commences à déclarer des négativités sur ta vie. Donc même quand quelque chose de bon arrive, tu crois que ça va partir et cela partira parce qu'il te sera fait selon ta foi. La deuxième des choses, grande chose que nous devons faire, j'aimerais juste te conclure deux choses ici, c'est que lorsque nous déclarons, nous créons une atmosphère de foi et de miracles. Les miracles ne sont pas simplement pour les Américains et pour les gens en Afrique, qui sont pour nous qui sommes ici. Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. La deuxième des choses que nous devons faire dans une crise, quand la crise frappe,
tu peux m'amener ma boîte.
Je vais aller autrement, je pense. Je peux avoir le sac à main de mon épouse? Merci, il est juste là devant toi. La deuxième des choses que nous devons faire dans une crise, merci beaucoup. La deuxième des choses que nous devons faire dans une crise, la première des choses, c'est quoi? C'est consulter. Arrête de paniquer, consulte d'abord Dieu. Isaac serait descendu en Égypte, il serait mort. Mais la Bible dit, Dieu a dit à Isaac un ordre contraire de ce qu'il pensait. La deuxième des choses dans une crise, nous devons apprendre à honorer Dieu dans une crise économique. Apprendre à honorer Dieu. Amen. Maintenant, je tiens ici le joli sac de mon épouse. Il va falloir que je change bientôt. Amen. Maintenant, la Bible nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu. Donc, la Bible ne nous a jamais dit de chercher l'argent. Votre problème, c'est que vous cherchez l'argent. Il dit chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Donc, tout chrétien est supposé chercher deux choses. Le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce que c'est que la justice du royaume de Dieu? C'est l'alignement parfait avec le roi du royaume. Maintenant, le royaume de Dieu est comme un sac. OK? Dans ce sac, il y a la guérison, il y a la prospérité, il y a quoi d'autre? Dites-moi, aidez-moi. Il y a quoi? La paix, il y a la joie, il y a quoi encore? Les millions, parce que vous, on parle d'argent, je dis vous. Les millions, il y a la santé, il y a la réconciliation. OK? Maintenant, Dieu est en train de se promener avec ce sac. Vous venez, vous voulez avoir ce qu'il y a dans le sac, mais sans prendre le sac. Est-ce que vous me saisissez? Maintenant, Dieu ne le donne pas toujours, parfois il donne par pitié. Mais Dieu est intéressé que tu ne prennes pas ce qui est dans le sac, mais que tu prennes tout le sac. Ça veut dire que quand tu as le sac, tu as accès. Tu as accès à tout ce qu'il y a dans le sac. Quand tu comprends le royaume de Dieu et que tu sais comment transiger dans le royaume de Dieu, tu as accès à la paix, tu as accès à la joie, tu as accès à l'amour. Le royaume de Dieu commence à pourvoir à tes besoins parce que tu as compris le royaume de Dieu et tu sais comment transiger dans le royaume de Dieu. Mais beaucoup, qu'est-ce qu'ils veulent? Seigneur, je ne veux pas le royaume, je veux je veux quoi? Je veux la paix. Seigneur dit, je ne suis pas seulement venu te donner la paix, je suis venu te donner tout le royaume. Merci, mon cher. Maintenant, dans une crise économique, voici ce que nous devons faire. La Bible dit que la crise frappe, mais la Bible dit que Isaac s'éma dans le désert. Ce qui nous fait mal dans une crise, quand la crise frappe les enfants de Dieu, le premier endroit qu'ils coupent dans leur budget, c'est Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, c'est très dangereux quand tu n'as pas compris le principe du royaume de Dieu. Quand tu ne comprends pas le royaume de Dieu. J'ai donné cet exemple le vendredi, celui du vendredi, comprenne où est-ce que je m'en vais. Nous avons des économistes ici. J'ai eu des merveilleuses conversations avec mon frère Jean-Claude. Vous avez l'occasion d'investir aujourd'hui, mon frère. Vous avez l'entreprise Apple. D'accord? Et puis, l'entreprise qui vend le poulet du coin. Vous voulez investir 1000 dollars et c'est la crise économique. Vous allez investir où? Vous avez 1000 dollars à investir entre Apple et puis la boutique qui vend les poulets au coin. Où est-ce que vous allez investir? Pourquoi vous allez investir dans Apple? Parce qu'ils ont un historique de réussite. Parce qu'ils maîtrisent leur domaine dans lequel ils travaillent. Vos yeux vont s'ouvrir ce matin. Amen. Donc, Apple, en réalité, n'a pas besoin de votre argent. C'est vous qui avez besoin. Ils ont beaucoup d'argent, mais c'est parce qu'ils ont l'argent que vous leur donnez. C'est parce qu'ils ont l'argent. Quand tu prêtes l'argent à quelqu'un, qu'est-ce que tu mesures? Sa
capacité. Donc, en d'autres termes, ce que tu mesures, c'est est-ce qu'il peut donner. Bon, maintenant, venons dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, les yeux vont s'ouvrir. Quand je donne à Dieu, je ne donne pas à Dieu parce que Dieu a besoin. Je donne à Dieu parce que j'ai besoin. Et parce que il est riche et qu'il tient toutes choses entre ses mains. Donc j'investis dans une bourse qui ne périt pas. Or, le diable, dans une crise économique, il te dit, ne donne plus ta dîme, ne donne plus ton offrande, ne va même plus à l'église, qu'on peut prier chez soi et Dieu nous entend. C'est vrai, mais la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des bien-aimés de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Donc le diable te dit, ne donne plus ta dîme, ne donne plus ton offrande, ne donne plus. C'est que tu ne comprends pas, c'est que quand on investit dans une compagnie, on investit dans une compagnie dont tu as mesuré le potentiel de te donner un retour par rapport à ton investissement. Donc, ce n'est pas nécessairement l'entreprise qui a besoin de ton argent. C'est que toi, tu as vu quelque chose dans l'entreprise qui te rapporte. Le jour où le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux, donné, ça ne devient plus un problème pour toi. Parce que tu comprends cela. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen.
Amen.
Donc, première des choses que je peux dire, c'est que dans une crise économique, honorer Dieu par mes finances crée l'abondance. Quelqu'un dit Amen.
Amen.
Proverbe chapitre 3, le verset 9 dit, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Frères, sœurs, la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens se lancent en entreprise, parfois ça ne marche pas. C'est parce que même la dîme de ton entreprise n'est pas donnée à Dieu. Dieu n'est pas le partenaire de ton entreprise. Et je voudrais inviter plusieurs qui ont coupé Dieu de la ligne de leur budget, de remettre Dieu en priorité. Honore d'abord Dieu dans la crise économique, parce qu'il dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Dieu peut transformer 5 dollars en 15 dollars. Je vais vous l'expliquer. Deux personnes peuvent avoir, mettons, 100 dollars. Les deux personnes sortent. Ton 100 dollars est dans le royaume de Dieu parce que tu investis avec Dieu. Lui, son 100 dollars est dans le système de Harper. D'accord? Un système faillible. Maintenant, vous allez vous promener. Vous êtes tous les deux sur la terre. Mais toi, tu vas voir que tu arrives quelque part. Avec ton 100 dollars, tu as acheté beaucoup plus. Parce que le royaume se souvient que tu es un investisseur. Donc, le royaume s'arrange que tu trouves des opportunités. La première des choses, quand tu investis avec Dieu, le royaume de Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il t'enlève la malgérance. As-tu déjà eu de l'argent? Un jour, j'ai eu 7000 dollars. Hé, frère, je suis sorti comme un gangster de la banque. J'étais très jeune. Je dis, celui qui me touche ici, je vais le frapper. Mais, un mois plus tard, c'est passé, je n'ai pas payé ma dîme. D'abord, je roulais sur l'autoroute à pleine vitesse, on m'a attrapé 700 dollars de tickets. Je vais dans une rue, je roule très vite, 700 dollars, 1400 déjà parti. Après ça, une envie de dépenser qui vient de nulle part. Mais lorsque je donne à Dieu, Dieu commence à me donner la sagesse pour gérer. Ensuite, Dieu crée des opportunités pour que je trouve faveur là où je vais. Tu es déjà rentré quelque part, la robe était 100 dollars, on l'a soldée à 15 dollars. Donc, ton 100 dollars là, il devient un 100 dollars du royaume. Toi, tu penses que dans tes mains, tu tiens des dollars canadiens? Non, tu tiens les dollars du roi des rois. Tu tiens une monnaie qui a une puissance que tu ne connais pas encore. Dieu va s'arranger que tu trouves des opportunités parce que Dieu sait que tu es un investisseur dans son royaume. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen.
Amen.
Malachie. Deuxièmement, la Bible dit que honorer Dieu, nous devons honorer Dieu au milieu de la crise économique. La Bible il dit que Isaac a sémé dans le désert. Nous devons honorer Dieu par nos dîmes. Lorsque nous honorons Dieu par nos dîmes dans la crise économique, la Bible dit que Dieu ouvre pour nous les écluses des cieux. Malachie chapitre 3, le verset 10 dit, apportez à la maison du trésor toutes, je vous laisse lire parce qu'on est toutes, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte. Donc, le seul domaine où Dieu veut qu'on le mette à l'épreuve, Ce n'est pas s'il est capable de faire des miracles, mais c'est dans le domaine des finances. Lorsqu'un chrétien a été délivré dans le domaine des finances, il est alors disposé pour que Dieu fasse l'impossible et des miracles sur lui. Je déclare qu'alors que tu vas donner ta dîme ce matin, une faveur divine sur tes finances. Je déclare alors que tu vas donner ta dîme ce matin, même le 90% que tu vas avoir sera un 120% parce que la main de Dieu sera dessus. Quelqu'un dit amen. Il dit, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. En d'autres termes, quand il s'agit de nos finances, nous pouvons influencer Dieu. Je sais que ça choque la théologie, mais c'est ce que le texte dit. Nous pouvons influencer le ciel. Nous pouvons influencer le ciel. Quelqu'un dit amen. La troisième des choses, honorer Dieu par mes finances, en donnant, nous enrichir. Là, j'aimerais vraiment traiter avec les chrétiens. Dieu n'a pas un problème de t'enrichir. Dieu a un problème avec ton cœur. Qu'est-ce qu'il deviendra s'il t'enrichit? La Bible dit que quand Dieu appelle Abraham, la Bible dit qu'Abraham devient extrêmement riche. Nous ne pouvons pas prêcher un évangile avec une mentalité catholique en se disant qu'il faut être pauvre. La pauvreté ne glorifie pas Dieu. Quelqu'un dit amen. Il n'y a aucun verset qui dit « soyez pauvres ». Mais Dieu dit à Josué, afin que tu aies du succès, Dieu dit à Abraham, « je rendrai ton nom grand ». Dieu dit, d'Abraham qu'il devient extrêmement riche. Dieu parle d'Isaac. Dieu dit d'Isaac que cet homme devient riche au point où les habitants qui étaient dans le pays ont commencé à le craindre. Quelqu'un dit « amen ». Mais si nous nous réclamons que nous sommes fils d'Abraham par la foi, n'est-il pas normal que nous soyons bien, même au milieu de la crise économique ? Amen. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste que même la sagesse du pauvre est méprisée. Donc tu peux avoir des bonnes choses parce que tu n'as pas dollars. On ne t'écoute pas. Quelqu'un dit amen. Proverbe chapitre 11, le verset 24 dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche. » C'est la loi de Dieu. « Et tel qui épargne à l'excès, et j'aimerais dire entre parenthèses ma version, au milieu de la crise économique, ne fait que s'appauvrir. » Voilà pourquoi est-ce que quand je veux devenir riche, je trouve une compagnie à qui je donne mon argent. Je n'ai pas assez d'argent. Je me sers même. À l'époque, je pense que les dames faisaient une histoire. Comment vous appelez ça encore? L'Ikiremba. Tu vois, une madame qui sert tous ses enfants pour cotiser avec des copines. Pourquoi? Quand j'ai besoin d'argent, pour créer l'argent, je n'ai pas nécessairement besoin de travailler. J'ai besoin de trouver un bon endroit où investir. Quelqu'un dit amen. Luc 6, verset 38, la Bible dit, « Donnez et il vous sera. » Donc, quand je veux recevoir, je dois donner. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose que le Saint-Esprit m'a expliqué hier pendant que j'ai terminé de me préparer. « Donnez et il vous sera. » Ok. C'est le domaine dans lequel je donne, c'est aussi le domaine dans lequel je peux aussi recevoir. Si je donne du temps aux gens, Dieu va peut extensionner mon temps. Si je donne de l'argent, Dieu, parce que j'ai sémé du temps, je récolte du temps. J'ai sémé de l'argent, je récolte de l'argent. J'ai sémé du service, je récolte du service. Amen. J'ai sémé le respect, je récolte le respect. Mais quand tu ne respectes pas les gens que dans ta maison, dans ta cave, tu parles mal d'eux, Dieu permettra aussi que tu récoltes ce que tu as sémé. C'est la loi de la réciprocité. Amen. Donc, il est important pour nous de comprendre. Première des choses, nous avons dit, dans une crise économique, il faut consulter Dieu. La deuxième des choses, nous avons dit, il faut honorer Dieu. Et si ce matin, tu te dis, mais écoute, je suis mal pris, fais l'effort d'honorer Dieu. La troisième des choses, pour terminer ce matin, je termine dans les prochaines minutes, il faut prier. Dans une crise, il faut prier. Il faut prier. OK. Premièrement, j'ai consulté Dieu pour savoir est-ce que je dois bouger, qu'est-ce que je dois faire. Deux, j'ai... honorer Dieu par mes biens, par ma dîme, par mes offrandes, je suis fidèle. Et quand j'honore Dieu, surtout dans le système où on est, j'écris mon nom vraiment sur l'enveloppe. Seigneur, souviens-toi de moi. La troisième des choses, je prie. Trois sortes de prières qu'il faut faire dans une crise économique quand tout va mal. La première des choses, il faut prier Dieu pour des connexions divines. Prie Dieu que tu rencontres quelqu'un. Ruth est venue à Bethléem. Elle est venue dans la ville de Bethléem, pauvre, mais c'est une connexion divine. qui a produit la sortie de la crise. Prie Dieu. Seigneur, je suis un investisseur. Seigneur, je donne dans ta maison. Seigneur, je sers dans ta maison. Connecte-moi à quelqu'un. La Bible parle du texte que j'ai cité de la femme de ce prophète. La femme du prophète était finie. Son mari l'a laissé avec des dettes. Mais c'est quand elle a rencontré Élisée, la connexion divine a produit la sortie de la crise. S'il y a une prière que tu dois faire ce matin, c'est dire à Dieu, Seigneur, fais-moi rencontrer mon Boaz. Fais-moi rencontrer mon Élisée. Fais-moi rencontrer mon Élie. Seigneur, permets que je rencontre quelqu'un, qui c'est quelqu'un que tu as mis sur ma route, afin que je sorte de la crise. La deuxième type de prière que nous devons faire. Deuxième type de prière dans une crise. Notre problème dans une crise, c'est que nous raisonnons dans une mentalité 9 à 5. Quelle est la mentalité 9 à 5? Je travaille, on me donne un salaire. Quelqu'un dit amen. Dans une crise, il faut réfléchir autrement. Pourquoi est-ce que je ne créerais pas un revenu sur le côté? Et si ça marche bien, ça devient mon entreprise. Il faut réfléchir comme ça. Voilà pourquoi vous allez voir une mentalité 9 à 5 a failli causer la faillite malgré le miracle. La femme dit, du prophète dit, mon mari est mort, il m'a laissé des dettes. Vous me comprenez? Elle va voir le prophète Élisée et Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai un peu d'huile. Ok. Toi, qu'est-ce que tu as ce matin? Tu dis, j'ai une idée. Ok. Mais tu prends ton idée, tu vas donner à ton patron. Tu resteras pauvre. Tu vas rester pauvre. Et l'huile se multiplie. Elle a la matière première pour commencer quelque chose de grand, mais elle n'a pas encore reçu l'inspiration. Donc, malgré le miracle qu'elle a entre ses mains, elle est toujours pauvre. Est-ce que vous me comprenez? Malgré les idées que tu es toujours pauvre. Parce que tu n'as pas encore reçu l'inspiration divine. Quelqu'un me dit, non, moi, j'aime les maquillages. Mais spécialise-toi dans un certain type de maquillage. Moi, je maquille les hispaniques, je me spécialise dedans, puis j'apprends l'espagnol. Est-ce que vous me saisissez? Moi, j'essaie de dessiner, mais tu dessines. Quel dessin? Spécialise-toi quelque part. Et cette femme retourne avec le miracle en main. Elle ne sait pas quoi faire avec le miracle. Elle va voir Élisée et dit, bon, l'huile s'est multipliée. Qu'est-ce que je fais? Je dis, mais vraiment. Élisée lui dit, commence une entreprise. Beaucoup dans une crise ont une mentalité d'employé. Voilà pourquoi ils restent pauvres. Or, la crise a été envoyée par Dieu pour faire ressortir l'entreprise qu'il a mis en toi depuis l'éternité. Et vous allez voir des gens pour qui Dieu a fait des miracles. Ils sont là avec du talent, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Mais ce qui a sorti la femme de la crise, c'est qu'elle est quand même retournée consulter. Elle dit, bon, papa, moi je sais consulter, moi je sais faire ça, moi je sais parler. Il y a des gens, quand ils parlent, tu as envie de donner tout ce que tu as. Mais comment si une entreprise de communication pense autrement dans la crise. Parce que quand tu donnes à Dieu, Dieu commence à te donner des idées. Mais ton problème, c'est que tu ne sais pas quoi faire. Tu penses que tu as été créé pour être employé, or tu as été créé pour être déployé.
Amen. Amen.
Je vais le répéter. Tu penses que tu as été créé pour être employé, tu as été créé pour être déployé. Mais toute ta vie, on t'a conditionné en disant que moi, je dois dépendre des autres. Il est étonnant de voir tant de gens pour qui Dieu a fait le miracle. Ils ont l'huile en main, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Ma prière, c'est qu'au sortir de ce matin, qu'il y ait une illumination dans ton esprit, que tu aies une idée géniale, que Dieu mette les connexions divines, afin que quand tu sortes d'ici, que tu puisses sortir de la crise et ne plus dépendre financièrement de quelqu'un. Je crois que de ce lieu, Dieu peut générer des millionnaires. Je crois que de ce lieu, Dieu peut générer des multimillionnaires. Je crois dans un Dieu d'abondance. Je crois dans un Dieu de multiplication. Que la petite idée que tu as, Dieu peut la multiplier. Quelqu'un dit amen. La dernière des choses que j'aimerais dire ce matin en terminant, dans une crise, non seulement il faut prier, le troisième type de prière. Frère, c'est comme ça que moi je prie. Hein. Donc je vous ai juste emmené dans mon petit... Et quand tu commences à prier comme ça, on dit, frère, toi vraiment, tu vas commencer l'entreprise, tu penses que... Je ne pense pas. Je pense que le roi pense. He got my back. He can back me off. He can save me. Est-ce que vous me comprenez? Et on est tellement habitué dans cette mentalité que quand je dis ça, tu sais, quand tu es employé, on t'apprend à penser que il faut que... N'es-tu pas fatigué de recevoir des ordres? Mais tu vas fatiguer. Quand tu découvres ton domaine d'excellence, le jour où tu découvres ton domaine d'excellence, tu arrêtes de travailler, tu ne travailles plus. Un homme qui a découvert son domaine d'excellence, il ne travaille plus parce que le travail est un plaisir. Il fait ce qu'il aime. Il faut que dans la crise qui frappe actuellement, plusieurs entreprises naissent. La troisième type de prière qu'il faut, Seigneur, oins-moi. Prie pour l'onction. Prie pour l'onction dans ce que tu fais. Car l'onction fera pour toi ce que le talent ne peut pas faire. Prie pour l'onction. Seigneur, je sais parler, oins-moi, pour que quand je parle, les gens peuvent ouvrir leur portefeuille, me signer un chèque. Seigneur, quand j'arrive, il faut que le dollar me suive. Frère, il faut que tu pries. Dieu peut oindre quelqu'un pour les affaires. Dieu peut oindre quelqu'un pour les affaires. Dieu peut te oindre en tant que médecin. On arrive avec le problème, les stéthoscopes ne sont pas là. Tu touches seulement la personne là. Quand tu touches là, Dieu te montre divinement, tu peux voir le problème. Il y a ce que le talent peut faire, mais il y a ce que la grâce de Dieu et l'onction de Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Notre difficulté dans la crise, c'est que nous voulons dépendre de nos forces au-delà de ça. La Bible dit que Daniel était intelligent, mais la Bible dit que Dieu a ajouté. Quand tu pries pour l'onction, Dieu ajoute à la dimension de ton talent, de ton potentiel, Dieu ajoute une mesure supplémentaire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Frère, tu marches courbé. Sœur, tu marches courbé. J'aimerais te dire, relève-toi. Le secours de Dieu est en chemin pour toi. Le psalmiste dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et j'aimerais dire ce matin qu'il est possible de survivre malgré la crise économique. Est-ce qu'on peut se lever à acclamer le Seigneur ce soir, ce matin? Est-ce qu'on peut se lever à acclamer le roi des rois?